Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième podcast de notre série portant sur les enjeux écologiques des prochaines élections européennes. Cette série fait intervenir plusieurs personnalités qui ont contribué au dossier que la Fabrique écologique vient de publier sur ce sujet. Ce dossier est composé d'une trentaine de fiches sur les différentes thématiques de la transition écologique et est librement accessible sur le site de la Fabrique écologique. Dans cet épisode, je reçois Laurent Simon, professeur émérite, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et responsable thématique biodiversité de la Fabrique écologique, pour discuter des enjeux de la biodiversité au niveau européen. Laurent Simon, bonjour.
Bonjour Claire.
Je vais commencer par vous poser une question sur l'état des lieux de la biodiversité dans l'Union européenne. Quelle est-elle ?
Bien. La première chose à bien dire, c'est que l'Europe détient des responsabilités, pas seulement sur le continent européen, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a aussi des espaces dans les milieux tropicaux, par exemple en France avec la Guyane, dans les îles tropicales. Donc il y a des possessions qui font que l'Europe a des responsabilités au-delà même du continent européen. Et elle a bien sûr des responsabilités énormes dans le domaine maritime, mais ça sera, je pense, l'objet d'un autre podcast. Alors, l'état actuel, si on regarde sur le continent européen, effectivement, il y a eu des évaluations qui ont été faites et qui sont assez inquiétante au premier abord. Il y a de nombreuses espèces qui sont menacées, alors plus ou moins, il y a différents niveaux, mais il y a surtout des groupes taxonomiques qui sont en déclin. C'est le cas par exemple des pollinisateurs, les abeilles, les papillons, mais pas que, qui sont quand même en déclin. Il y a une diminution également des oiseaux spécialistes des milieux agricoles, très importante. Des arbres aussi de plus en plus. Donc il y a des espèces qui sont aussi aujourd'hui menacées. Ce n'est pas seulement d'ailleurs des espèces, c'est des populations. C'est-à-dire que ça décline, ce n'est pas seulement une espèce qui disparaît, il y en a peu qui disparaissent. Par contre, les populations de ces espèces disparaissent. Et puis l'autre constat qui est fait, c'est que les habitats dans lesquels ces espèces vivent sont en général en mauvais état de conservation. L'évaluation qui a été faite, c'est 80% des habitats européens qui sont en mauvais état de conservation. Et parmi ces habitats, il y a des milieux qui sont particulièrement remarquables, comme les tourbières, les dunes côtières, les prairies naturelles. Et ces espaces-là sont aujourd'hui quand même fortement impactés par un certain nombre d'activités humaines. Et donc, si on regarde depuis 50 ans, par exemple, 80% des zones humides européennes qui ont disparu. Donc voilà, il y a également d'autres inquiétudes pour les territoires ultramarins, dont je parlais, avec les espèces exotiques envahissantes, qui sont un des gros problèmes qui est posé. Et puis, avec le réchauffement climatique, on a des inquiétudes aussi sur l'état de nos forêts. Donc c'est un panorama un peu sombre, là, que je viens de dresser, mais attention, il est quand même à nuancer. D'une part, l'état de conservation, si on prend toutes les espèces confondues, l'état de conservation a plutôt progressé au cours des 20 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont en meilleur état qu'elles n'étaient il y a une trentaine d'années. Les populations d'oiseaux, je vous ai dit, les oiseaux des milieux agricoles ont beaucoup baissé. En revanche, les oiseaux des zones humides ont augmenté. Et les populations totales d'oiseaux, d'après ce qu'on voit, depuis 2000, elles ont baissé entre 80 et 2000, et depuis 2000, elles réaugmentent. Et puis à côté donc, de ces résultats qui concernent des espèces, on observe en Europe un retour de ce que je pourrais appeler la nature, c'est-à-dire les grands prédateurs, des espèces caractéristiques de milieux très peu anthropisés. Alors bien sûr, on pense tout de suite au loup, on pense à l'ours, mais il y en a d'autres. Il y a le chacal, etc. Pour la première fois cette année, par exemple, le loup s'est reproduit dans tous les pays européens. Donc vous voyez, c'est l'indice aussi de dynamique naturelle importante. Et puis, parmi les oiseaux, il y a les pics noirs ou les pics blancs, qui sont des oiseaux caractéristiques de milieux très matures, très, très naturelles, qui sont en progression. Voilà, alors on pourrait parler des bisons, etc. Donc il y a un retour de la nature. Donc voilà, il y a des aspects assez positifs. Alors les causes générales, on les connaît, c'est le changement d'utilisation des terres, c'est la surexploitation d'un certain nombre de ressources, c'est surtout vrai pour la pêche, c'est le changement climatique et les pollutions, puis les espèces exotiques envahissantes. Alors, aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'agriculture intensive, qui a entraîné une diminution des oiseaux agricoles. On ne sait pas exactement quelle est la part des pesticides et quelle est la part des changements de structure paysagère là-dedans. Donc voilà, il y a également tout ce qui est autour de l'artificialisation et de l'étalement urbain qui pose un certain nombre de problèmes.
Et l'Union européenne, elle mène une action de longue date sur la biodiversité. Du coup, par rapport à ce constat contrasté dont vous venez de nous parler, quelles ont été les principales actions de l'Union européenne ces dernières années et est-ce qu'elles ont été efficaces ?
Alors, l'action de l'Union européenne, l'action de l'Europe pour la protection de la nature, elle est bien antérieure à l'Union européenne. Je ne vais pas faire un historique, mais ça n'a pas commencé avec l'Union européenne. L'Union européenne, elle a mis en place d'abord, dans un premier temps, la directive oiseaux. C'était en 1979. C'est un des premiers textes législatifs qui a imposé aux États membres de protéger toutes les espèces d'oiseaux sauvages qui étaient sur l'annexe de cette directive. Et il fallait également restaurer leurs habitats. Et donc, elle a créé ce qu'on appelle des ZPS, des zones de protection spéciales pour les oiseaux. Ça, c'est en 1979. Ensuite, en 1992, il y a une deuxième directive qui est la directive Habitat, qui, elle, concerne à la fois des espèces, quand même un millier d'espèces, plus des écosystèmes, là aussi répertoriés dans des annexes. Et pour ces espèces comme pour ces écosystèmes, il y a des conseils, voire des directives précises de gestion pour conserver la biodiversité à l'intérieur de ce qu'on appelle, c'est le langage européen, des ZSC, c'est-à-dire des zones spéciales de conservation. Donc ces ZPS et ces ZSC sont mis en place dans le cadre du réseau Natura 2000, qui lui aussi remonte à 1992. Ce réseau Natura 2000, donc ils doivent permettre l'application de ces deux directives. Il faut bien voir que ce réseau en Europe, c'est 27 000 sites. C'est le plus grand réseau d'aires protégées au monde. Alors, ce n'est pas forcément de la protection stricte, etc., mais c'est le plus grand réseau protégé au monde et il comprend quand même les sites de reproduction, de repos de la plupart des espèces rares, des espèces menacées, des types d'habitats, etc. Donc là, il y a eu un effort considérable. À côté de ça, l'Europe a mis en place aussi en 1992 un programme qu'on appelle souvent LIFE, mais il faut dire LIFE, c'est l'instrument financier pour l'environnement, qui est un instrument qui est dédié au soutien de projets innovants, à la recherche et à des projets appliqués. Et puis, il y a eu un énorme effort aussi, considérable, d'inventaire, de connaissances. Il y a un centre européen sur les données sur la biodiversité, il y a des observatoires un peu partout, etc. Donc voilà, il y a eu ça, c'est le, disons historiquement, à partir de 79 et surtout 92. Le résultat, c'est que la superficie des espaces protégés dans l'Union européenne, elle a augmenté. En 2018, on respectait les objectifs qui avaient été fixés à la COP de Nagoya en 2010. Aujourd'hui, ça a encore augmenté avec le réseau Natura 2000. On est à 27% d'espace terrestre. Je parle d'espace terrestre pour être clair, parce que c'est très différent pour les problématiques maritimes qui seront traitées ailleurs. Les espaces terrestres, on est à 26%. Donc, on n'est déjà pas très loin de l'objectif qu'on se fixe pour 2030, qui est de 30%. Et donc, il y a une progression de ces espaces protégés et bien sûr, quand même, des effets positifs sur un certain nombre d'habitats menacés, comme les dunes côtières, certains milieux humides. Donc, il y a une progression et on voit que les zones qui sont couvertes par Natura 2000 ont des résultats meilleurs que celles qui ne sont pas couvertes. Donc, l'action a quand même un effet positif. Autre action qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi tout ce qui concerne la déforestation importée où l'Union européenne a pas mal avancé sur ce domaine.
Plus récemment, dans le cadre du Green Deal, l'Union a adopté une stratégie pour la préservation de la biodiversité. Je voulais vous demander quels sont les principaux piliers de cette stratégie.
Alors la stratégie elle est basée sur trois choses. Un, la protection de la biodiversité remarquable, forêt pas. Premier aspect. Deuxièmement, la restauration des écosystèmes dégradés, avec l'objectif de restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030, c'est-à-dire essentiellement des espaces agricoles. Et puis, ce qui est aussi nouveau, c'est d'avoir des objectifs contraignants. C'est-à-dire que ces objectifs, on peut les suivre, il y a un site et ils doivent être respectés. Donc voilà, ça c'est la stratégie. C'est une stratégie, il faut quand même le dire rapidement, qui marque un vrai pas en avant et un vrai tournant. D'abord parce qu'elle va s'intéresser à tous les types d'espaces. La biodiversité remarquable, il est même prévu que 10% du territoire de l'UE soit en protection stricte. Donc la biodiversité est remarquable, des écosystèmes les plus menacés, les rivières, il est prévu que les rivières puissent être parcourues par les poissons sur 25 000 km en Europe, donc c'est quand même... Et puis la nouveauté, c'est l'intérêt pour les espaces ordinaires, les espaces agricoles, où il était prévu la réintroduction de structures d'intérêt écologique, les fameuses jachères, mais c'est autre chose, où il était prévu la diminution des pesticides, le développement d'une agriculture écologique, soit HVE, soit agriculture bio, etc. Donc voilà, puis il y avait d'autres thématiques autour des espèces exotiques. Donc vraiment, c'était une stratégie qui prenait tout en compte. Attention toutefois, derrière des objectifs très clairs, par exemple 10% de protection forte, personne n'est d'accord sur ce qu'on entend par protection forte. Donc les objectifs sont parfois ambitieux, mais parfois aussi assez flous. Et dernière chose, il s'agissait aussi de planter 3 milliards d'arbres, mais ça, ce n'est pas du tout une garantie de biodiversité.
La préservation de la biodiversité a fait l'objet de négociations très dures au Parlement européen lors du vote de la loi pour la restauration de la nature. Quelles sont les principales caractéristiques de cette loi et pourquoi les débats ont-ils été si vifs ?
Alors, la loi de la restauration de la nature, elle a eu lieu en plusieurs époques. Il y a eu une première époque en juillet 23. Elle a été votée en décembre 23. Elle est déjà le résultat de compromis. Protection stricte, par exemple. On n'en parle plus trop ou on n'entre pas trop dans le détail. Le principe de non-détérioration des écosystèmes avait aussi disparu. Donc ça, c'est en décembre. Entre décembre et février, puisqu'elle vient d'être votée il y a quelques jours, il s'est passé des petits événements, il y a une crise agricole, et donc le texte qui vient d'être voté, c'est encore un nouveau compromis à partir d'un compromis. Donc les États membres, par exemple pour les espaces ordinaires, il va falloir qu'ils améliorent la présence de papillons de prairie, il va falloir qu'ils améliorent, qu'il y ait plus de surface avec des caractéristiques écologiques positives. Il faut qu'il y ait plus d'oiseaux. Mais vous voyez que toute la dimension pesticides, structures d'intérêt écologique a complètement disparu. En fait, le volet agricole a été totalement vidé de sa substance. Alors, pourquoi ça ? Il faut bien dire que le problème de cette loi, c'est qu'elle n'était pas forcément très bien faite. On a dit que c'était historique, mais elle ne posait pas bien le problème de l'articulation avec les autres politiques. Donc, faire de la PAC... un instrument de la biodiversité et de notre capacité à exporter, c'est pas si évident que ça. Et l'articulation n'a pas été pensée. De la même manière, sur les transitions écologiques, on ne peut pas demander à la forêt à la fois d'assurer de la biodiversité alors qu'elle est fragilisée et de participer à la transition écologique. C'est des choses qui n'ont pas été véritablement pensées. Et ce qui n'a peut-être pas aussi été pensé, c'est que c'est un... Je vous ai dit, c'est très ambitieux comme loi, mais c'est un changement complet. Un retour de la nature en Europe, alors qu'on l'a jusqu'à présent limité, c'est totalement nouveau. Faire revenir des loups, faire revenir des ours, supprimer les barrages. Donc ça demande un changement d'esprit, et pour ça, il faut emmener les gens. Et pour emmener les gens, faut susciter l'adhésion. Et le moins qu'on puisse dire est que cette loi n'a pas suscité l'adhésion des acteurs de terrain. Et c'est pour ça que la droite et l'extrême droite s'en sont servis pour s'opposer à ces textes, les vider de toute une partie de leur substance.
Et concernant les prochaines élections européennes, quels sont les enjeux pour la préservation de la biodiversité ?
Alors, l'enjeu L'enjeu, il est évident. On est dans un contexte, tout le monde l'a bien compris, où les préoccupations environnementales ne sont pas les premières à l'ordre du jour. Il y a d'autres enjeux géostratégiques, économiques, etc. Et quand il y a beaucoup d'enjeux comme ça, en général, c'est les enjeux d'environnement qui sont sacrifiés. Et dans les enjeux d'environnement, la biodiversité plus encore que le changement climatique. Donc là, on est dans une conjoncture qui n'est pas très propice à la biodiversité. Il y a pourtant des grands sujets qui vont apparaître et qui doivent être discutés. Il y a tout un sujet autour de l'utilisation des substances toxiques. C'est le règlement REACH, R-E-A-C-H, peu importe, sur ces produits chimiques qui doit être discuté, mais qui est repoussé. Et donc, en fonction de la composition du Parlement, on n'aura pas forcément la même délibération. Il y a aussi des discussions très importantes sur les nouvelles techniques génomiques. Et là aussi, il y a des oppositions importantes, des tas de discussions à avoir. L'ANSES en France a demandé qu'on évalue vraiment ce qu'il en était. Ce n'est pas l'optique de tout le monde qui veut qu'on les diffuse de façon à avoir des arguments économiques face aux concurrents. Il y a aussi des problèmes autour de l'alimentation. Là encore, l'Europe a... Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses absolument fondamentales. Je dirais que le premier objectif, ce que j'aimerais, c'est que ce Parlement évite un recul trop important, parce que si on détricote ce qu'on a fait, on va prendre des années de retard, or il y a quand même besoin d'agir vite. Et puis j'aimerais que ce Parlement réfléchisse un petit peu, ce serait bien, à comment... mener une politique qui permette de susciter l'adhésion des acteurs locaux et qui apparaisse moins comme une politique de normes, de critères et d'indicateurs qui ne marche pas très bien. Voilà, mais il y a des très gros enjeux et c'est vrai qu'on peut assister à un recul majeur. Voilà, ce serait dommage.
Merci beaucoup Laurent Simon.